Je vous raconte en 5 épisodes l'histoire de l'année 1975. Dans le deuxième épisode, deux hold-up en plein Paris, la révélation Renault, la folie Coluche et Eddie Merckx agressé en pleine course.
1975, on de la raconte sur Europe 1.
Le 27 février 1975, avenue de la République à Paris, trois individus braquent la succursale de la Société Centrale de Banque. La scène se déroule en plein après-midi et elle tourne vite au drame. Les malfaiteurs communiquent rapidement leurs exigences. Europe numéro 1 est sur le coup.
On a des otages.
Vous êtes un des personnes qui retenaient des otages.
On a deux femmes et un homme. Il y a un ami qui est mort.
Un ami à vous?
Et le caissier aussi, il est mort. Il y a quatre hommes à l'intérieur encore. Il y a un otage de mort.
Et vous, qui êtes-vous?
Hein?
Et vous, qui êtes-vous?
Nous?
Oui.
Il faudrait qu'on parte vivant, sinon tous les otages meurent. Vous comprenez?
Oui.
Il faut
la
voie libre et une voiture. Vous m'entendez?
Oui, très bien. Vous avez demandé...
Bon.
Vous avez des exigences?
Oui.
Oui, qu'est-ce que vous désirez?
On veut 100 millions. 100 millions et une voiture. On a 4 otages. Il faut pas qu'il y ait une seule pénétration à l'intérieur de la banque, sinon les otages mourront. Sans arrêt, les revolvers sont braqués sur eux.
C'est la première fois qu'une prise d'otage a lieu lors d'un hold-up. Et les journalistes d'Europe 1 sortent sur le coup. Ils n'en loupent pas une miette.
En fait, tout a commencé à 16h15 lorsqu'une Austin jaune est venue se garer près de la porte de la banque avenue de la République. De cette voiture sont sortis deux hommes jeunes qui ont pénétré dans la banque. Le troisième, lui, reste au volant de l'Austin et le moteur tourne au ralenti. À l'intérieur de la banque, il y a bien sûr des clients, il y a aussi des employés qui attendent l'arrivée du fourgon blindé d'une société de transport de fonds et les sacs sont prêts, ils sont plombés derrière le comptoir. Dès l'arrivée des gangsters, le caissier qui a payé de sa vie son geste actionne le signal d'alarme. Un policier au dehors, un policier qui règle la circulation, est intrigué par cette voiture qui a été volée il y a 2 ou 3 jours. Il s'approche au moment où le signal d'alarme retentit. Le chauffeur, qui a eu le temps de se masquer avec le haut de son pull-over, sort, ouvre le feu. À ce moment-là, une voiture de la brigade de répression du banditisme, une voiture qui patrouille avenue de la République, débouche. Un inspecteur tire sur le gangster qui tombe une balle en plein cœur. Dans la banque, les deux complices ont entendu des coups de feu, ils prennent 2 otages, 2 femmes pour couvrir leur fuite, mais les inspecteurs ont déjà pris position face à l'entrée de cette banque, il y a un échange de coups de feu, l'un des gangsters même serait blessé. En se protégeant avec les 2 otages, les gangsters se replient à l'intérieur de la banque et gardent avec eux 6 personnes, 3 hommes et 3 femmes.
Pour la brigade de répression du banditisme, c'est le baptême du feu. L'unité a été créée quelques semaines plus tôt. Les négociations entre les deux camps prennent du temps. Nous ne sommes pas des enfants de cœur. On est des génies. Hein, on en est à notre 20e coup. Ça fait 2 ans que la danse se poursuit pour nous. Et d'ailleurs, on n'en a rien à foutre. À 17h, le chef de l'anti-gang est dépêché sur place pour poursuivre les négociations. Les braqueurs veulent 1 million chacun. Une voiture, des fusils et un avion prêt à décoller d'Orly. À 2h25, une Alfa Romeo fournie par un habitant du quartier et 2 sacs de billets sont mis à leur disposition. À 2h30, les malfrats sortent de la banque avec 3 otages sur 6, les femmes. Une course-poursuite débute en plein Paris, mais elle est de courte durée. Dans le quartier de Barbès, les membres de la BRB perdent de la trace de l'Alfa. Vers les Champs-Élysées, les malfaiteurs tentent de braquer une voiture, sans succès. Depuis l'hôpital où il a été conduit, le conducteur raconte avec un calme étonnant le déroulement des événements.
J'étais tranquillement arrêté au feu rouge au milieu de l'avenue Champs-Élysées, à peu près à la hauteur de la rue du Colisée. Et il y a une Alfa Romeo qui est venue nous coincer. Il y a eu un petit choc, pas grand chose. Le choc m'a fait me retourner. J'ai vu donc l'Alfa qui m'avait coincé. Je me suis même demandé, tiens, mais qu'est-ce qu'ils font là? Comment ils sont arrivés à se mettre dans cette position? Donc, moi, je suis descendu pour voir les dégâts qu'il pouvait y avoir à la voiture. Je suis descendu tranquillement. À ce moment-là, probablement le conducteur est descendu très, très rapidement. Et Et il m'a tout de suite tiré dessus. Immédiatement, quand j'étais en train de descendre, il m'a tiré une balle donc, dans la jambe en me disant « Bouge pas, c'est nous qui avons les otages, c'est nous le coup de la République. » Il était masqué, il avait une cagoule grise avec une espèce de liseré rouge autour des yeux. J'ai pas senti grand-chose. La détonation, c'était plutôt un... J'ai cru que c'était un pistolet d'alarme, mais plutôt une blague au début. J'ai rigolé, j'ai regardé ma jambe, j'ai vu que j'avais, il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de trou, je ne le voyais pas le trou. Et je lui ai dit, bah, espèce de crétin ou quelque chose comme ça, c'est tout quoi. Puis j'ai avancé sur lui d'ailleurs. À ce moment-là, il s'est débiné. Ils sont remontés dans la voiture et c'est là que j'ai senti quand même, je commençais à sentir que ça commençait à faire mal. Alors je suis remonté dans la voiture. J'ai essayé de les prendre en chasse. On a dû d'ailleurs griller le feu rouge. Puis au bout de 50 mètres, bah, j'ai commencé à un petit peu tourner de l'œil. Je me suis arrêté, je suis passé à l'arrière. Un de mes amis a pris le volant.
Finalement, les deux braqueurs réussissent à voler une autre voiture. Ils abandonnent l'Alpha et relâchent enfin les otages.
Il y a un quart d'heure à peine ici, place de Saint-Lazare, c'est-à-dire en fait à l'angle de la rue de Saint-Lazare et de la rue d'Amsterdam, la Jaguar que conduisait les gangsters s'est arrêtée à la hauteur du restaurant qui fait le coin. Les trois jeunes femmes ont pu descendre de la voiture, se sont réfugiées dans le restaurant, ont demandé tout de suite à téléphoner à la police. Ce que j'ai pu savoir tout de suite, c'est qu'elles sont en bonne santé. Vous savez que l'une d'entre elles était enceinte. Elles sont bien sûr un peu choquées par l'épreuve qu'elles viennent de traverser, mais elles sont en tous les cas saines et sauves. Elles ont été conduites à la police judiciaire, où elles viennent d'arriver et où leur famille, bien sûr, sera prévenue.
Dans la voiture, l'ambiance était tendue, comme le raconte l'une des otages au micro d'Europe numéro 1. Et dans la panique, les malfaiteurs ont oublié un sac de billets.
On a tourné un peu dans tous les sens. Puis le gangster qui était au volant s'est affolé, enfin, il était très, très énervé. Ensuite, quand il s'est aperçu qu'il avait oublié la moitié de la rançon, il s'est encore beaucoup plus affolé, bien entendu. Et puis l'autre qui était avec nous, en fait, qui était avec moi derrière, a essayé de le calmer. Ensuite, nous sommes remontés par la rue de Ponthieux et c'est là qu'il a pu avoir cette Jaguar. Et là, il s'est calmé, ça s'est beaucoup mieux passé. On a continué à se promener dans Paris et finalement, ils nous ont lâchés. Enfin, ils sont partis à pied en nous ordonnant de ne pas bouger, ce qu'on a fait parce qu'on n'avait plus rien à perdre. On est resté 5 minutes sans bouger et on tournait pendant 10 minutes en cherchant un café pour pouvoir téléphoner.
Vous étiez à quel endroit dans la voiture ?
Moi, j'étais derrière. Derrière, un des gangsters au milieu et il y avait une autre femme à droite. J'ai eu très peur tout le temps qu'on a été dans l'Alpha. Après, ça a été mieux, disons. C'était beaucoup plus détendu. Parce qu'il voulait absolument changer de voiture, c'était son objectif. Ils nous ont promis qu'on ne craindrait rien si la police suivait leurs instructions et on n'a eu aucun problème.
Ce 28 février 1975, au petit matin, les deux braqueurs disparaissent dans la nature. Et la police est contrainte d'admettre qu'elle ne sait pas trop qui a fait le coup.
Est-ce que ce sont des hommes que vous connaissiez ? Est-ce que ce sont des hommes que la police connaissait
non,
parfaitement ?
On ne peut pas les connaître puisqu'on ne les a pas identifiés. Et je vous dis, la seule chose que nous avons essayé de faire, c'était d'obtenir le signalement. Mais ça également, c'est... ce sont des silhouettes qu'elles ont pu décrire et pas autre chose. Parce que, je vous dis, les gangsters n'ont jamais quitté leur cagoule. On a pu identifier celui qui a été tué, mais les deux autres, non.
Celui qui a été tué, donc, c'était quelqu'un qui était très connu de vos services ?
Ah oui, oui, enfin c'était déjà un gangster assez chevronné et fiché chez nous. Oui.
Il y a une nouvelle phase de la poursuite qui va s'engager maintenant.
Ah oui, une nouvelle phase, c'est maintenant de les retrouver. Je préfère vous dire que nous allons y employer activement.
Le ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, annonce que les malfaiteurs seront sévèrement punis quand ils seront retrouvés. Et il n'exclut pas la peine de mort.
Celui qui a été tué était un chevronné, un spécialiste qui avait, je crois, 14 hold-up à son actif. Et vraisemblablement, cette affaire a été conduite dans des conditions qui marquent une expérience du crime. On ne peut pas prévenir tout acte de prise d'otage. Je crois personnellement que la meilleure prévention est une grande sévérité de réaction chaque fois que la vie de l'otage est préservée et sauvegardée. Et que c'est une répression dure et sévère qui est la meilleure prévention de ce genre d'actes.
Vous avez réclamé le maintien de la peine de mort pour les cas de hold-up avec prise d'otage. Est-ce qu'une affaire comme celle qui s'est passée hier à Paris vous conforte dans cette position ?
J'ai donné comme exemple la prise d'otage lorsque la mort des otages s'ensuit, les enlèvements d'enfants lorsque les enfants sont tués ensuite, et les cas dans lesquels la police et le policier est mortellement atteint. Dans ces cas-là, je conçois que l'on puisse appliquer la peine de mort. Et je voudrais insister sur le caractère dissuasif de l'existence de cette peine.
En cette année 1975, un seul des braqueurs est identifié de manière certaine. Mohamed Badawi, dit Bada. Le troisième braqueur est peut-être André Belaïch, dit Tédé. En tout cas, les deux ont fui vers le Maroc avec leur fiancée. 5 ans plus tard, Bada sera interpellé et tué à Paris après une infraction au code de la route. Et Tédé sera arrêté 11 ans plus tard pour des braquages avec le gang des postiches.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Le 3 décembre 1975, un braquage a lieu dans le 7e arrondissement de Paris. 3 hommes s'en prennent à des convoyeurs de fonds avenue Posquet. Une fusillade éclate. Un des malfaiteurs a réussi à s'enfuir. Et les 2 autres se sont retranchés dans une agence du Crédit Lyonnais. Ils retiennent 21 personnes en otage. Étienne Moujotte, le rédacteur en chef d'Europe numéro 1, juge nécessaire d'expliquer aux auditeurs que la radio ne donnera aucune information.
Que cela vaut un mot d'explication pour ceux d'entre vous qui nous écoutent, pour les auditeurs d'Europe 1. Ce n'est pas la première fois, en effet, que des otages sont retenus dans une banque en plein cœur de Paris ou ailleurs. Et à diverses reprises, déjà, nous avions décidé d'être très discrets sur les tractations qui étaient en cours entre la police et les gangsters, afin évidemment de ne pas risquer de mettre en jeu la vie des otages. Eh bien, cette fois, la direction d'Europe 1, la direction de l'information, a pris la décision de ne donner aucun détail sur ce qui se passe dans cette banque et autour de cette banque. Nos reporters sont sur place et ils vous diront ce qui s'est passé lorsque tous les otages seront libérés sains et saufs, nous l'espérons en tout cas. Il est, je crois, de notre responsabilité de ne rien taire de ce que nous savons, mais c'est aussi notre responsabilité que de ne pas mettre en danger la vie d'otages innocents. Voilà pourquoi nous vous avons donné cette information et pourquoi aussi nous ne la commenterons qu'après la libération de tous les otages.
À 1h23 du matin, les braqueurs récupèrent la voiture mise à leur disposition et ils s'enfuient, en prenant avec eux 2 otages, là encore 2 femmes. Les policiers les prennent en chasse et Gérard Fusil, le journaliste d'Europe numéro 1 sur place, avec son coéquipier, décide de suivre l'équipe.
Avec Dominique, le motard d'Europe, nous avons décidé de suivre les gangsters, mais à distance pour ne pas gêner la police qui s'était lancée aussitôt à la poursuite de la voiture. À une vitesse folle, les bandits traversent la Seine et montent l'avenue Georges V, brûlant tous les feux rouges. À l'angle de la rue Pierre-Charron, ils freinent brusquement et font signe aux policiers, en menaçant un otage, de cesser de les suivre. Et alors là, la scène devient hallucinante. Les gangsters redémarrent, toujours suivis par la police. Ils s'engouffrent dans la rue Pierre-Charron. Ils parcourent 300 mètres et à l'angle de la rue François 1er, c'est la collision inévitable, un choc terrible contre la voiture d'un député de Paris. Par miracle, personne n'est blessé dans cet accident. Les bandits descendent de voiture et c'est l'incroyable scène de western en plein Paris des noctambules. Un gangster a un colt dans chaque main et fait feu sur les voitures de police. L'autre gangster s'approche d'un taxi tout en tirant. C'est une pétarade invraisemblable. Un témoin me dira plus tard, je croyais que c'était des rafales de mitraillettes. Tout le monde se jette à plat ventre. L'essence coule des voitures accidentées au milieu du carrefour. Des vitres tombent en éclats. Le gangster qui tentait de monter dans un taxi est atteint. Il mourra quelques minutes plus tard, puis l'autre gangster s'écroule blessé. Personne d'autre n'est touché. Les otages sont indemnes.
Une fois les otages libres et indemnes, Fusil raconte alors à l'antenne la course-poursuite. La cavale s'est terminée dans le 8e arrondissement, pratiquement en bas des locaux d'Europe 1. La voiture des gangsters a été stoppée par une voiture venant en sens inverse. Dans ce véhicule, il y avait 2 députés revenant de l'Assemblée nationale.
Il s'est passé ceci, c'est que nous remontions l'avenue, la rue François 1er, et cette voiture a brûlé le feu rouge, la voiture bleue a brûlé le feu rouge, nous est rentrée dedans. Et à ce moment-là, nous sommes sortis en disant, eh bien, nous avons eu un accident, et à ce moment-là, nous avons entendu un crépitement d'une mitrailleuse, et nous n'avons rien compris à ce qui s'est passé, c'est seulement maintenant que nous venons de réaliser.
Bon, les otages, vous ne les avez pas vus, les gens qui étaient dans la voiture avec les gangsters?
Nous avons vu que la voiture était relativement chargée, mais finalement, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est nous qui avons arrêté la voiture dans sa course. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que nous sommes 2 députés de l'Assemblée, nous revenions de l'Assemblée et de la discussion.
Les coups de feu sont intervenus à quel moment?
Ah, mais presque tout de suite après l'accident. Derrière, ici, là.
Est-ce que les gangsters ont tiré, d'après vous?
Ah, je n'ai pas pu voir, vous savez, je n'ai rien compris. Je suis d'abord sorti de la voiture pour voir si mon ami Brian était blessé. Et à ce moment-là, le crépitement a commencé.
Vous avez vu les gangsters s'écrouler ensuite?
Oui, derrière, ici, derrière. Et à ce moment-là, moi, je me suis allongé par terre, parce que je ne savais pas de quel côté ça tirait.
Et le plus drôle, c'est que ces deux députés venaient de déposer une proposition de loi qui visait à aggraver les peines encourues pour les preneurs d'otages, justement. Des dizaines de badauds ont assisté à la fusillade. Et dans la foule, il y a un jeune homme de 23 ans qui commence à se faire un nom dans la chanson. Il s'appelle Renaud.
Ondelatte raconte, Christophe Ondelatte.
Le 3 décembre 1975, Renaud est près des Champs-Élysées lorsqu'une fusillade éclate entre les forces de l'ordre et des braqueurs. Comme tous les badauds présents ce jour-là, il assiste impuissant à la mort de l'un des malfaiteurs et à l'agonie de l'autre. Le soir même, il écrit sa chanson « Les Charognards ».
Oui, alors je voulais vous chanter une chanson, c'est une chanson qui m'est inspirée par un fait divers auquel j'ai eu la chance d'assister. Je dis bien la chance parce que ça m'a permis d'analyser un peu plus profondément le comportement d'une foule devant une flaque de sang. Ce fait divers s'est produit le 5 décembre 1975 aux Champs-Élysées, à Paris. Je m'adapte. Dans la rue Pierre Charron, exactement. Ce soir-là, les tireurs d'élite de la brigade anti-gang ont descendu deux jeunes gangsters qui sortaient d'une banque où ils avaient récupéré de l'argent et des otages aussi un petit peu, ils avaient récupéré au passage, il faut bien l'admettre. Ils ont descendu comme des lapins. Je passais par là par hasard et j'ai assisté au dénouement de cette mise à mort. J'ai surtout écouté les commentaires, les réactions de la foule et ça m'a inspiré cette chanson qui s'appelle « Les Charognards ».
La carrière de Renaud a débuté quelques mois plus tôt, au tout début de l'année 1975. Le jeune homme se verrait bien comédien, mais son ami Coluche et le producteur de ce dernier, Paul Lederman, l'incitent à se tourner vers la chanson. Et Renaud suit leurs conseils. En avril 1975, pour sa première télé, il est invité chez Daniel Gilbert dans l'émission Midi Première.
Puis maintenant, je voudrais vous présenter un garçon qui s'appelle Renaud, qui n'est jamais passé à la télévision. C'est vraiment son premier passage. Alors, il a un petit peu le trac, je vous le dis comme ça en passant. Il est né il y a 20 ans à Paris. C'est un gavroche, vous n'avez qu'à écouter l'accent, regarder la casquette et vous aurez tout de suite compris. Il a également une politique tout à fait particulière. C'est la sienne, jugée plutôt d'après le titre de sa chanson « Camarade bourgeois ». Vous voulez en savoir plus? Alors, écoutez-le maintenant. Renaud.
Camarade bourgeois, camarade, fils à papa, la triomphe en bas de chez toi, le petit chèque en fin de mois, regarde-toi, ah, 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 regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade, fils à papa, t'as vraiment pas l'air content, tu sors le dimanche, ton petit complet veston et ta chemise blanche, regarde-toi, ah, 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 regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, tu roules en Ferrari ou en Lamborghini, tu roules des épaules, tu te crois super drôle, regarde-toi, regarde-toi.
Et immédiatement, Renaud dénote dans le paysage musical. Ça dégaine, ça gouaille, les thèmes de ses chansons, ça plaît aux jeunes. Son premier 33 tours, Amoureux de Paname, sort en avril. Et les radios, Europe numéro 1 en tête, flairent le talent. En juin, le chanteur est reçu dans l'émission de Daniel Patt, Musicorama.
Il y a Renaud. Renaud, vous n'en avez peut-être pas encore beaucoup entendu parler. Il a sorti un 33 tours, pourtant il n'y a pas très très longtemps. C'est un jeune garçon, comment dirais-je, un jeune loulou. Un jeune loulou habillé à la manière des Jojo d'autrefois, d'avant-guerre, avec la guêpette blanche et le pantalon à carreaux. Il chante des chansons pleines de poésie, mais d'une poésie à la Gavroche, résolument engagée, au premier degré. Et tout jeune qu'il est, il se fait accompagner d'un accordéon musette. Voici ce que ça donne.
Écoutez-moi, vous les ringards, écologistes du samedi soir. Cette chanson-là vaut pas un clou, mais je la chante rien que pour vous. Vous qui voulez du beau gazon, des belles pelouses, des petits moutons, des feuilles de vigne et des petites fleurs, faudrait remettre vos montres à l'heure. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage, mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage.
Ce premier album se vend à 300 000 exemplaires. Et un titre en particulier fait beaucoup parler de lui. Hexagone. Une chanson qui raconte de manière critique une année dans la vie des Français.
Être né sous le signe de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.
C'était Hexagone, chanson phare de Renaud en 1975, extraite de son tout premier album.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
1975, c'est l'année Coluche. L'humoriste fait surtout sensation avec son chelemélé, chelemélé, blic.
C'est aujourd'hui à Cajar, petite ville de l'Aveyron. Je rappelle brièvement que nous savons déjà que le schmilblick est presque rond, qu'il contient du jaune, qu'il tient dans la main, qu'on peut le faire cuire de différentes façons et qu'un navigateur le faisait tenir debout. À vous Cajar, à vous Simone, premier candidat.
C'est monsieur.
C'est Papy Boulot. Salut les gars. Est-ce que le schmilblick, le schmilblick, le schmilblick. Et chez moi, il y a
monsieur.
Bonjour Guy Tou, Jean-François, que faire à Paris avec un Sajajar au camping. Est-ce que tu as peur pour servir peut-être le schmilblick tout seul dans sa tente?
Non, à quoi pensez-vous?
À la même chose que vous, dégoûtant.
C'est ça, alors s'il vous plaît, le candidat suivant, Simone.
Le candidat suivant est une candidate.
Non, non.
Oh, excusez-moi, on ne les reconnaît plus.
Allez-y, posez votre question, monsieur.
Oui, alors est-ce qu'on peut pousser le schmilblick?
Oui, pourquoi?
Pour le faire avancer, ben...
C'est amusant. Merci, monsieur Simon.
Oui, candidat suivant.
Bonjour, Minux.
Allez-y, posez votre question, monsieur.
J'ai pas de question, ce serait pour dire à René qu'il aille directement chez ZZ, parce que comme j'ai paumé les clés du camion, je vais t'emmerder pour livrer l'armoire.
On lui dira, monsieur.
Bah quoi, j'en paye à la télé, ça croit, merde.
Candidat suivant, c'est monsieur?
C'est Papy Rougeau.
Bonjour monsieur.
Bonjour mon gars. Est-ce que chez moi.
Vous attendez monsieur. Merci. Candidat suivant. C'est à vous monsieur.
Sa parodie du jeu télévisé de Guy Lux et ses sketchs sont diffusés partout. À partir de février 1975, pendant un mois, il est programmé en vedette à l'Olympia, avec un spectacle qui s'appelle « Mes adieux au musical ».
Comme ce soir, ce sont mes adieux au musical, puisque, je sais, ça sera dur pour vous aussi, oui. Mais, eh bien, mon camarade régisseur a marqué sur une vieille feuille de papier qui traînait là quelques phrases célèbres dont il se souvenait, comme ça que j'ai eu l'occasion de citer dans différentes pièces à l'époque. Coco, tu me fais un éclairage d'acteur, s'il te plaît?
Après Paris, Coluche va à la rencontre de son public. Il entame une tournée dans toute la France. Et chaque soir, ses sketchs font mouche.
J'attends quelqu'un. C'est que ça existe comme bagnole, ça? Un truc qu'il a fait lui-même ou quoi? C'est pas moi le sac, non, non. Vous allez à Paris? Hein? À Lyon? Ah oui, ben alors... Vas-y, ça me rapprochera toujours un petit peu, hein. Bon, allez, va. Ah, vous allez être content de votre bagnole, là? Ah oui, c'est bien, faut pas être difficile. C'est français? Oui, ça doit pas être cher, quoi. Ah, quand même? Ah, ben, ils s'emmerdent pas, hein. Un marquis, s'il trouve des couillons pour payer, on peut pas... Non, je dis pas ça pour vous, il y en a qui en ont besoin. Un marquis, moi, je risque pas de passer pour un con avec ma bagnole, j'en ai pas, alors... Je paye pas l'essence, je paye pas l'assurance, je paye pas de vignette, puis pourtant j'en ai fait les kilomètres. Hein. On entend bien le moteur. Hein. Moi je dis, on sent bien compte qu'on n'est pas en panne, quoi. Il faut y échapper. Ta mère et moi, nous t'avons élevé jusqu'à présent, surtout ta mère. Évidemment, imbécile, je travaille toute la journée. Je dis pas que l'élevé Bigot, c'est pas du boulot. Je dis que c'est ta mère. En dehors de chez l'élevé, tes frères et sœurs, elle a rien à foutre. D'ailleurs, tu pourrais l'aider et ainsi donner les exemples. Au lieu de ça, monsieur, donne un autre exemple. Gérard, tant que tu écoutais Mi-Gégère et les Beatles, je dis rien, je dis rien. Mais quand tu fumes du hakik, non!
En 1975, Europe numéro 1 s'intéresse au phénomène Coluche. Et la radio lui dédie une émission spéciale. L'enregistrement a lieu chez lui. Et Coluche se livre sans filtre.
Coluche, je suis chez vous, dans votre appartement, avec votre femme, votre fils. Puis vous, et vous avez votre salopette, votre chemise, vos grosses chaussures rouges.
Ouais.
Enfin bref, vous êtes à la ville comme à la Seine, exactement le même Coluche.
Ouais, mais c'est parce que ça, c'est parce qu'on croit. Parce qu'il y a des mythes comme ça qu'on dit, les artistes, ils se sont fait un personnage, mais en fait, on est un personnage. Le personnage que je joue sur scène, c'est moi en plus épais, si je peux dire. Et puis un peu sur la crème.
Vous êtes contre le vedettariat ?
Dans notre métier, on est soit vedette, soit inconnu, et c'est vraiment lamentable. Bon, ben, c'est pas désagréable d'être vedette, hein, c'est pas ça que j'ai dit. Hein. C'est que ça serait bien de pouvoir faire le métier sans être vedette, quoi. Il y a quand même de gros inconvénients à être vedette. Les gens idolâtrent des trucs bizarres, quoi. Il y a des... Moi, je vois, par exemple, je reviens de faire une petite tournée en province, il y a des gens qui attendent qu'on range le matériel, qu'on ait fini, des fois une heure, dans la rue, pour avoir un autographe. Alors, les gens n'ont pas besoin de pouvoir ôter une heure, alors qu'ils ont déjà payé leur place pour venir voir
mais
quelqu'un.
Mais ils en veulent plus, ils veulent vous voir, ils veulent...
Oh oui, mais quand même, c'est bizarre, je sais pas, je comprends pas ça, moi. Moi, je connaissais pas le métier et je m'aperçois que les machinaux des théâtres, les directeurs des théâtres dans lesquels on passe, veulent des autographes. Et ça, j'en savais rien, j'ignorais complètement ça. Ce qui est avantageux dans le fait d'être comédien, c'est que, dans le fait d'être vedette, je veux dire, quand on a vendu un petit peu de disques, alors les gens ont gagné de l'argent sur votre dos. Alors ils vont vous mettre de... Ils donnent de l'argent pour que vous fassiez autre chose.
Vous en gagnez aussi.
Oh, moi, je gagne pas beaucoup d'argent, non. Non, pas encore. Peut-être que j'en gagnerai beaucoup, mais je vois pas comment, d'ailleurs, avec le contrat que j'ai, avec mon requin. Mais de toute façon, c'est pas ça qui est évidemment, je gagne beaucoup d'argent par rapport à ce que j'ai gagné, puisque j'ai fait 14 métiers, j'ai jamais gagné un rond, j'ai toujours été viré ou apprenti. Alors évidemment, si je gagne 1 million par mois, je gagne beaucoup d'argent. Hein.
Qu'est-ce que vous gagnez ?
Oui, je dois gagner au moins ça, quand même. Oui, j'ai l'impression. Mais finalement, c'est pas énorme, quoi. Je veux dire, moi, je touche un franc sur un disque à 34 balles, Et là-dessus, je paye 70% d'impôts, c'est-à-dire qu'en fait, je gagne 30 centimes.
Avec l'air de rien, vous faites vos comptes quand même.
Non, bien, ça m'amuse, ça m'a amusé de savoir. Parce que quand on m'a dit, t'as vendu 150 000 disques, j'ai dit oui, d'accord, mais vous me donnez un disque d'or. Mais ça doit coûter une fortune, un disque d'or. Pourquoi me le donner ? J'aimerais bien savoir où est passé le fric que ça rapporte, parce que c'est quand même pas moi qui l'ai, ça, sans ça, je le saurais.
Et lors de cette émission, eh bien, on découvre que le contrat signé entre Cocatrix, Lederman, son producteur, et lui, n'est rien d'autre qu'un tout petit bout de papier.
Et on va encore parler d'argent, parce qu'il y a là encadré chez vous, sur le mur, Olympia Coluche, 18 février 75, 2 mars 75, 7000 francs par représentation, récital signé Coluche, Cocatrix, et puis
Martinez
et Duettiste. Et ça, c'est encadré dans votre salle à manger, là, sur... C'est très amusant, mais c'est le vrai contrat ?
Oui, j'ai écrit ça, oui. Il a écrit ça, on est allé dans le bureau de Cocatrix un soir avec les rongeurs, là, enfin les deux, ouais, les deux qui grattent sur mon dos, ouais. et sur mon pauvre dos, et puis il m'a écrit ça comme ça sur une feuille de papier qui était sur son bureau, et voilà, c'est le contrat de l'Olympia, c'est dingue.
Ah oui, c'est incroyable, on imagine un notaire, un papier signé, tamponné, là il y a un bout de papier qui traîne, enfin qui ne traîne plus puisque vous l'avez encadré, mais ça,
oui,
je veux dire
que c'est... quand même que ça valait le coup de l'encadrer, ouais.
Il voyage en solitaire, et nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre, il chante la terre. Et et c'est une vie sans mystère. Qu'il se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la terre, mais il est seul. Un jour, l'amour l'a quitté, s'en est allé faire un tour de l'autre côté d'une vie où il n'y avait pas de place pour se garer.
Il voyage en solitaire, chanson de Gérard Manset en 1975.
Ondelat raconte, Christophe Ondelat.
En 1975, le grand favori du Tour de France est le Belge Eddy Merckx.
C'est Eddy Merckx, vous voyez en jaune à Paris, c'est bientôt.
Ah, je l'espère.
Vous rêvez?
Ah, je rêve, je me battrai pour.
Vous savez que si vous arrivez premier à Paris, vous allez battre le record de Jacques Anquetil.
Écoutez, c'est pas le record de Jacques Anquetil qui m'intéresse, c'est surtout la victoire du Tour de France.
Maître Jacques Anquetil a remporté 5 fois le Tour de France. Eh bien, 1975 pourrait être l'année où Merckx va le dépasser. Mais le 11 juillet, dans la montée du Puy-de-Dôme, le champion s'effondre à 150 mètres de la ligne d'arrivée. Il vient d'être violemment frappé au foie par un spectateur. Quelques minutes d'étonnement et il remonte sur son vélo, comme si de rien n'était.
Vous avez vu le docteur ? Oui, le hématome que j'avais sur les orbes, donc je crois que ça devrait aller.
Vous sentez une gêne au foie ?
Bon, lorsqu'on me masse, oui, alors ça fait encore mal, mais à part ça, ça va.
Vous pensez que vous serez handicapé ?
Bon, j'espère que non.
Votre agresseur a été arrêté, identifié, il n'avait pas de pâté sur lui. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je sais pas, moi, j'ai rien à penser. C'est pas moi à en décider. La police est là pour ça.
La plainte va suivre son cours et...
Oui, donc c'est malheureux. Enfin.
Vous pensez que ça rejoint la violence en sport, tout ce qu'on a connu, à savoir Leeds, etc., dans la finale de la Coupe d'Europe contre le Bayern, les exactions de tous les supporters, etc., les gens qui vous sifflent à l'arrivée?
Oh, peut-être bien, écoutez, bien faire pour tout le monde, on ne peut pas, mais enfin, je crois qu'il y a beaucoup de supporters.
Vous pensez, oui, vous avez quand même beaucoup de supporters, que c'est une image de la société actuelle, la violence, les raps, les hold-up? Ça fait un petit peu partie.
Je crois que tout en fait un petit peu partie, oui.
Vous mettez ça aussi sur le compte d'un certain chauvinisme, non? Un supporter non, un peu trop sûr. Français?
Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. J'espère, pas du moins.
Mais le moral du Belge est atteint. Et ce coup de poing a des conséquences sur la suite de la course. Bernard Thévenet prend l'ascendant sur Eddy Merckx.
Est-ce que vous avez un favori? Bernard Thévenet.
Ah, à l'étape, peut-être pas, non. Non, pas l'étape, mais le tour, sûr.
La poulie d'or.
Ouais. Poulie d'or toujours.
C'est votre favori?
Ah oui, aujourd'hui, oui.
Vous croyez qu'il va gagner l'étape?
Ah ouais, aujourd'hui, oui.
Vous croyez que t'es venu le successeur de Merckx?
Oh non, pas encore, hein. Parce qu'il y a quand même encore une différence. Merckx, il sait gagner des classiques. Thévenet n'en gagnera peut-être jamais.
Thévenet, Bernard Thévenet,
Le 20 juillet 1975, c'est la première fois que le Tour de France arrive sur les Champs-Élysées. Une idée de Yves Mourousi. Ce jour-là, l'avenue est noire de monde. Les gens grimpent où ils peuvent pour tenter d'apercevoir quelque chose.
Vous avez vu quelque chose?
Ben, j'ai pas vu grand-chose, parce qu'il y a pas le monde.
C'est la première fois qu'une arrivée du Tour de France suscite autant d'intérêt. Et finalement, c'est un Français, Bernard Thévenet, qui s'impose devant Merckx avec 2 minutes 47 secondes d'avance.
On est vraiment tous très heureux, tous les Charolais ici présents, et même je crois toute la France entière est heureux qu'enfin... Charolais remporté le Tour de France. Au moins un Français, un pur Français, un pur Charolais. Et croyez-moi qu'il sera bien arrosé ce soir par tous les parodiens, les Charolais, les Digouanais et toute la région.
Vous ne regrettez pas le déplacement?
Ah non! Ça nous aurait coûté 10 000, tant pis, mais on est heureux, tout le monde est heureux. Vraiment comme Thévenet, gagner ce Tour de France.
C'est une fête du sport et c'est une fête parisienne puisque tout le monde est sorti dans la rue, pour la première fois d'ailleurs, pour assister à cette grande manifestation sportive. Et je me réjouis que Paris puisse être ainsi, de temps en temps, le cadre de grandes fêtes qui sont celles du sport et de la jeunesse.
Cet été 1975, on découvre aussi que le président Giscard d'Estaing a suivi quelques étapes du Tour et que le vélo, eh ben ça le connaît.
L'essentiel, c'était qu'il puisse conserver son avance. C'est une avance qui lui donnait une certaine marge, mais pas une sécurité absolue. Il y a toujours le risque d'un incident, d'un accident. Et donc, jusqu'au dernier moment, il fallait qu'il maintienne son effort.
Un mot sur la course de Merckx, monsieur le président.
Il continue à courir comme il l'a fait, notamment le premier jour, d'ailleurs, après son accident. C'est la preuve d'une très grande volonté et d'un très grand courage. Je dois dire qu'à l'arrivée, il s'est comporté très amicalement et très élégamment vis-à-vis de Thévenet.
Et Poulidor, monsieur le président?
Bien, Poulidor, cette année, c'était surtout une démonstration de volonté et de résistance physique qu'il a donnée avec beaucoup de courage. J'ai suivi les étapes, et notamment les dernières, c'est-à-dire celles dans lesquelles l'enjeu se jouait. Vous savez d'ailleurs que le Tour de France est passé tout près de l'endroit que j'habitais, c'est-à-dire qu'il est passé au Puy-de-Dôme, et d'ailleurs qui a été une des épreuves certainement dures de ce Tour de France.
Monsieur le Président, est-ce que vous avez fait du vélo? Est-ce que vous avez déjà monté le Puy-de-Dôme?
Il y avait beaucoup de vélo pendant la guerre, parce que pendant la guerre, il n'y avait, comme vous le savez, aucun autre moyen de transport, et je faisais beaucoup de vélo. À ce moment-là, je me souviens que nous allions, par exemple, pour ceux d'entre vous qui ont suivi l'épreuve dans le Puy-de-Dôme, dont nous faisions souvent le trajet Clermont-Ferrand, la Bourboule, l'aller-retour dans la journée. C'était un trajet sportif, je me souviens, j'ai fait aussi dans la journée, dans la matinée, en partant très tôt, le trajet Bandol-Antibes, en passant par le col de Gratteloup. C'était pas tout à fait les épreuves du Tour de France, mais enfin, c'était tout de même des parcours assez longs.
De son côté, Bernard Thévenet a un peu de mal à réaliser, parce qu'il n'avait jamais imaginé battre le favori du Tour de France, et ainsi être félicité par le président.
Je ne réalise encore pas vraiment ce qui m'arrive, c'est quelque chose d'extraordinaire, je pense. Ça, j'ai quand même eu peur presque jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. J'ai souffert jusqu'au dernier jour, alors c'est encore difficile de réaliser pleinement ce que c'est de gagner le Tour de France.
Qu'est-ce que vous a dit le président Giscard d'Estaing?
Ici?
Oui.
Eh bien, il nous a félicités, il nous a fait un peu visiter les choses, la maison ici.
Ça fait plaisir, cette réception?
Oui, bien sûr, parce que je ne m'attendais pas du tout à être reçu un jour par le président de la République.
Barry White avec The First, The Last, My Everything, immense tube de 1975. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Julien Pichenet, Guillaume Vassaud, François Desmoulins et Valérie Inizon qui m'aident à préparer cette émission tous les jours. La suite de notre voyage au cœur de l'année 1975 dans le troisième épisode dont Delattre raconte une année.
Retrouvez On Delattre Raconte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.